J'ai traversé la rue, j'ai levé le pouce, puis j'étais encore en face de chez nous, mais j'étais plus chez nous, j'étais dans le début d'une aventure. Et puis j'étais là dans mes petites culottes de laine, avec ma petite casquette de compteur, dans slouch, avec mon fanal. Et je levais le pouce en prenant conscience de ce que j'avais fait. Définitivement, j'allais avancer moins vite pour me raconter un peu plus une histoire. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez, il était une fois dans l'Est. Avant de débuter cet épisode-ci, je trouvais important de laisser une petite note de bas de page. J'ai réécouté mes deux premiers épisodes et il y avait un truc qui m'agaçait vraiment. J'ai dit, faut vraiment que je fasse de quoi. Alors là, je vous laisse une petite note drette ici. C'est au sujet du rôle de Marianne. Marianne, que je nomme dans chacun des épisodes, qui a pris le temps de s'asseoir en face de moi et de m'offrir son temps puis son écoute. Et à la fin de l'épisode, je dis que c'est de la co-animation et ça pourrait peut-être sembler inexact ou exagéré comme rôle quand t'as juste écouté. T'sais. Sauf que en réalité, Marianne, par son écoute, elle a incarné l'écoute d'un public dans le conte. Cette chose-là qui est essentielle, qui fait que je peux pas jouer à conter quand je suis tout seul chez nous, que je peux pas jouer à vous dire tout ça s'il y a pas Marianne en face de moi. Et c'est vraiment de la co-animation parce que son écoute a influencé mes propos. Elle m'a dirigé, sans le savoir ou de manière inconsciente des fois, par ses froncements de sourcils, Marianne m'amenait à préciser certains de mes propos. Par ses fous rires, elle m'amenait à persister dans des gags. Par ses yeux humides, par moments, elle me donnait le courage de continuer à donner certains détails de certaines histoires que je vous ai racontées ou que je vais encore vous raconter. Alors, je trouvais important de reconnaître pleinement ce que je trouve qui a été cette contribution-là qui a rendu tout ça possible. Alors, merci Marianne. Et je trouvais ça le fun de vous laisser une petite note de bas de page comme celle-là plutôt que d'aller corriger l'épisode où je vous parle du rôle de Marianne parce que j'aime bien ça, les ratures dans un texte, les mots qu'on barre, les flèches qu'on renvoie dans une marge. Toutes ces erreurs-là laissent une trace qui, je trouve, raconte une belle histoire. Une histoire où est-ce qu'on n'est pas parfait, mais qu'on essaie juste de faire de notre mieux. Et c'est ça que j'avais envie de faire avec vous. Voilà. Bonne écoute. Dans ce troisième épisode, je vais vous parler de mes tournées de quêteux. Merci d'être là. Merci à vous. Merci, Marianne, d'être là. Pour ceux qui se demandaient, en fait, tout ça est enregistré chez nous. J'ai mon chum Tom qui m'a prêté un kit pour enregistrer des podcasts, puis on s'est seté dans un de mes salons chez moi, dans un de mes nombreux salons, c'est-à-dire un des lieux où il y a quelque chose pour s'asseoir. Il y a des matériaux de construction qui traînent autour. Marianne est assise en sirène sur le futon en face de moi. Ce qui est peut-être la meilleure manière de s'asseoir sur un futon, où est-ce que de toute manière t'es mal couché puis mal assis. Fait que aussi bien t'installer d'une manière qui est à mi-chemin entre tout ça. Et puis moi je suis sur un petit tabouret. Il y a un fer à repasser à terre. Ça vous donne un contexte un peu bucolique pour la patente. Moi j'espère clairement qu'il y a du monde qui écoute ça dans le char. Mais genre dans le char entre Sherbrooke puis Carleton cet été, en sachant qu'ils viennent voir mon show. Puis là, ils se sont dit, oh, on va écouter son podcast avant d'aller voir son spectacle. Fait que là, on va déjà tout savoir. Puis bien qu'ils viennent voir mon show, en fait, ce monde-là, ils vont écouter le show avec des lunettes 3D, tu sais, en comprenant les rouages derrière. Et puis, ils pogneront pas vraiment l'histoire parce qu'ils seront attentifs à tout sauf à l'histoire. En se disant, ah, tu veux, il fait des interactions avec le public. Ah, il a arrêté son histoire pour faire un commentaire. Ah oui, c'est de ça qu'il parle. Ah, ça, c'est-tu l'histoire qu'il avait raconté à la fille? Oui, je pense que oui. En tout cas, j'espère qu'il y a du monde qui font ça. Mon souhait en ce moment, c'est de vous parler du métier de conteur que je pratique à ma manière. Puis, tu sais, il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, oui, il y a vraiment un marché pour créer des modes d'emploi dans le conte. Mais c'est un marché auquel j'ai pas eu accès ou j'ai pas pris accès quand j'ai commencé. Alors j'ai fait le conte à ma manière en faisant mon spectacle estival. Bon, à la voix comme je te pousse, un peu de la même manière que je vous garoche ce podcast-là avec un montage incroyable fait à la bouche. Ouais, c'est pas mal sur une table de montage à la bouche. Donc, oui, j'ai mon spectacle qui était une manière particulière quand même de présenter le conte, et puis j'en reparlerai plus tard, faites-vous-en pas, ou faites-vous-en. Assez rapidement, j'ai eu envie de pratiquer le conte d'une autre manière, pas seulement dans mon spectacle estival. Pour préparer mon spectacle, bon, c'est sûr que j'avais fait beaucoup de recherches historiques parce que je trouvais ça logique de camper les contes que j'allais raconter dans un contexte historique des années 1800. Parce que les années 1800, c'est le début de la Gaspésie ici, puis j'avais envie que non seulement raconter des fictions, mais parler aussi un peu de notre territoire, parce que je savais que la clientèle qui venait me voir était touristique. Donc, j'avais envie de lui permettre de voir le territoire autrement, puis de construire ce territoire-là. Mais en faisant mes petites recherches historiques, je suis souvent tombé sur les quêteux. Pas que c'est des grands personnages de l'histoire, mais on dirait que je tiquais tout le temps là-dessus. Les quêteux, les quêteuses, des hommes, des femmes qui se promenaient de maison en maison, qui se promenaient sur les routes. Souvent, c'est au printemps, quand les routes dégelaient, on vidait prison. Hein, puis les quêteux se remettaient à se promener, puis toquaient chaque soir aux portes pour demander le gîte et le couvert en échange de le service. Il y en a qui étaient simplement là pour être hébergés. On faisait dormir dans la grange, puis quimbon. Mais il y en a aussi qui offraient le service, que ce soit déguiser des couteaux, de fondre des cuillères, de ramonner des cheminées, de jouer du violon. Il y avait même les ramancheux qu'on appelait les bone setters, qui arrivent vers l'heure du souper. Et là, les enfants en avaient peur, puis on leur faisait peur en disant « rentre à la maison avant 7 heures le soir, faudrait pas que le bone setter t'attrape ». Puis qu'il te démange, puis donc le bonhomme 7 heures. Ben oui. Arrêtez pas votre voiture pour ça, là. Vous allez vous en remettre. Il y en avait un dernier type de quêteux, c'est la dernière famille de quêteux, qui étaient des conteurs-conteuses d'histoire. Est-ce que c'en était des bons? On va savoir, mais c'est ce qu'il y avait à échanger en échange de l'hospitalité. Quand je rencontrais ces personnages-là dans les petits livres d'histoire ou dans les détours ou quand je parlais à des vieux ici et qu'on me parlait des quêteux, ben il y avait quelque chose, il y avait une poésie là-dedans qui venait me chercher, il y avait une espèce de romantisme. En tout cas, ça a généré une version romantique pour moi du quêteux, de la quêteuse. Je me disais, oh wow, c'est des gens qui ont choisi de rien avoir d'autre que leur confiance en l'autre. Mais non, probablement qu'il y avait genre des contraintes physiques ou psychologiques qui faisaient qu'ils pouvaient pas avoir une terre ou une job ordinaire ou être marié ou puis qu'ils avaient pas choisi leurs conditions. Mais malgré tout, moi j'aime bien me raconter qu'ils avaient choisi ça, puis c'est les espèces d'artistes d'antan qui vivaient la bohème et quand même qui étaient porteurs de quelque chose qui était important, qui étaient porteurs, porteuses de notre patrimoine. Et on les rétribuait comment? Rétribuer. Oui, c'est ça le terme. Très beau mot. On les rétribuait en leur offrant, bon, l'hospitalité puis l'apport du quêteux. On avait tout le temps, on disait dans le temps, ben tout le temps. On dit qu'on avait tout le temps, mais si ça se trouve, on l'a fait une fois. Mais on dit qu'on l'a fait tout le temps. Mais on avait l'apport du quêteux qui était une assiette de plus à la table pour, d'un coup, qu'il y ait un survenant qui se pointe puis ben, on aurait de quoi à y donner, quoi. Et ça, moi, ça me faisait rêver parce que ben c'était une espèce de manière traditionnelle de porter le conte, de porter même le métier de conteur-conteuse ou d'être porté par le métier de conteur-conteuse. Mais aussi, ça me rejoignait parce que quand j'ai commencé à conter en 2012, j'étais dans un grand remaniement de ma vie où est-ce que j'avais une approche un peu de simplicité, j'avais pas mal les deux pieds dedans, là, de simplicité volontaire. Je vous en parlerai pas en long et en large ici, là, mais j'avais épuré pas mal ma vie. En me disant que si je pouvais gagner de quoi pour me nourrir puis me loger, ce serait bien en masse, tu sais, puis j'aurais pas besoin de me loger dans quelque chose qui évoque mon statut social tant que ça, là. Juste quelque chose qui m'abrite puis où j'ai le droit d'être, là. Alors, mes besoins avaient grandement diminué puis j'en éprouvais une grande liberté et je me disais, waouh, tout ça, je le dois au métier de quêteux parce que dans le fond, c'est ça que je fais. On me donne juste assez pour avoir un toit pour la nuit puis de quoi à mettre dans mon assiette. Et c'était vraiment mon souhait et ça m'avait tellement rendu heureux. Comme découverte dans la première année, ce métier de quêteux-là, finalement, je trouvais que c'était ça que je pratiquais, que je me suis dit, il me reste juste à finir d'explorer cette aventure-là que d'être quêteux. Et ce qui me manquait, en fait, c'était la route. Parce que, un quêteux, une quêteuse, si ça restait toujours dans le même village, assez vite, t'allais avoir épuisé les ressources du village. tu étais dans un village de 200 habitants, tu allais avoir fait le tour de ceux qui voulaient encore te recevoir cette année. T'sais. Alors, il fallait couvrir plusieurs villages. Et ils s'y prenaient comment dans le temps? Ben, ils ramenaient entre autres des nouvelles des autres villages. Fait que si tu avais un beau-frère qui était à Gaspé, eh bien, tu allais passer une nuit chez eux, tu ramassais des nouvelles et à Carleton, tu allais raconter au frère, ben, hey, ton beau-frère, frère, beau-frère, il y a confusion ici. Les familles d'antan, c'était très complexe. Alors, tu allais raconter, ben oui, ben ton beau-frère là-bas, il vient d'avoir un 13e enfant et puis oui, ils ont fait un autre étage. Tu sais, tu donnais des nouvelles puis le monde était content. C'était le manière, c'était la gazette de l'époque. Alors, il y avait ça. Donc, moi, j'avais envie d'explorer la route parce que je trouvais ça bien de parler des quêteux, mais je me sentais un peu illégitime de me comparer à eux si j'avais pas tenté toutes les volets de toutes les sphères du métier de quêteux. Alors, j'ai choisi de faire une première tournée de quêteux. Comment je m'y suis pris? Ben, c'était quoi pour moi faire une tournée de quêteux? Je l'ai fait en 2014, ma première. Pour moi, ça allait être de partir d'ici, partir de Carleton, et puis m'en aller. Je le ferais en autostop parce que je trouvais ça beau de dépendre de la générosité des gens pour avancer. Inutile de marcher, les distances que je m'étais fixées étaient beaucoup trop grandes. J'allais vraiment avoir besoin de la confiance en l'autre, celle que j'offrirais à celui qui allait me chauffer, mais aussi celle que lui m'offrirait au grand barbu sur le bord du chemin avec un pack-sac puis un fanal. Ça me faisait rêver que mon tapis volant soit de la confiance. Ça me plaisait bien. Et j'avais fixé un peu les paramètres de l'affaire en me disant, bon, 2014, on a quand même les médias sociaux qui existent et alors je vais m'en servir. J'avais fait un appel à tous en disant, je cherche des lieux qui sont prêts à me recevoir. Alors, j'ai envie d'aller chez des inconnus pour raconter dans votre cuisine, dans votre salon, en échange du gîte et du couvert. C'est gratis. Passez-vous le mot, faites-moi signe. Et je m'étais fait une espèce de carte où est-ce que j'avais découpé Carleton-Montréal en une vingtaine d'arrêts. Et chaque arrêt était à 50 km de distance, de rayon, à peu près. Non, était à 100 km. Était à 100 km et je demandais aux gens, inscrivez-vous pour un arrêt. Donc, bon, je pars de Carleton, j'ai un arrêt à Matapédia, ce sera mon premier soir. Soir 1, 1er avril, Matapédia, 2 avril, Mont-Joli, 3 avril, Rivière-du-Loup, et ainsi de suite. Et inscrivez-vous, envoyez-moi un courriel si vous habitez dans un rayon de 50 km de Matapédia. Et je pourrais aller chez vous le 1er avril. Alors, ça structurait mon chemin pour pas que j'aille à faire des allers-retours par rapport à travers le Québec à chaque jour en autostop. J'avais assez d'une aventure comme ça. Donc, j'avais découpé le truc. J'ai reçu, je crois, 100 invitations pour 20 soirs. Vraiment, il y a eu un engouement. Je pense que ça parlait beaucoup au monde. Et c'est pas le fait que c'était gratis. Je pense sincèrement que le monde avait envie de cette espèce d'aventure-là où est-ce que tu allais avoir... Ben, de un, c'est complètement inattendu. Tu sais, en 2014, que tu as un inconnu qui débarque chez vous, de un. De deux, que ce soit un artiste et qu'il y ait une œuvre à offrir, un spectacle dans mon salon, tiens, pourquoi pas. Et puis de trois, je pense que je tapais dans le mille en venant faire appel à un souvenir collectif qu'on avait, qui était celle, qui est l'histoire des quêteux. Et cette histoire-là, j'avais pas envie de la raconter, j'avais envie qu'on la vive. Moi, j'avais envie de la vivre de l'intérieur. De comprendre qu'est-ce que ça implique de dormir chez quelqu'un que tu connais pas, de pas savoir t'es où le matin. À chaque matin où tu te réveilles, tu fais « Ah oui, c'est vrai, comment il s'appelle le monde chez qui je suis? » M'a donc bien me sentir mal de leur demander le nom avec un café à matin, tu sais. Alors, toute cette... de vivre le day-to-day, de découvrir le détail de l'affaire, de découvrir en fait ce qui était pas du tout dans les livres d'histoire. On parle des quêteux comme étant des gens qui étaient de passage, mais c'était quoi être de passage? Alors, j'ai fait cette première tournée-là. C'était au printemps 2014. Alors, pendant 20 jours, l'aller-retour, Carleton-Montréal. Et le petit poète en moi s'était dit, tiens, amène pas de portefeuille, pas de carte de crédit, pas d'argent. Tu vas dépendre complètement de la confiance en l'autre. C'était... J'avais 26 ans, j'étais naïf puis radical et puis j'avais pas encore tout le cynisme que j'ai aujourd'hui et puis je me disais encore qu'on pouvait faire confiance quoi. Et donc en n'ayant pas d'argent, ça me forcerait à aller vers l'autre pour avoir ce qui me manquerait. La nécessité me pousserait vers l'autre. C'est un point de non-retour, te laisser ton portefeuille chez vous, débrouille-toi ou ben jeûne, tu sais. Donc ça c'était un des paramètres. Un des autres paramètres particuliers, c'est que j'étais parti avec mon soute de compteur. J'avais, pour ceux qui m'ont jamais vu avec ça, là, j'avais un costume que je m'étais fait inspiré de la couture des années 1800, des grosses culottes en laine, une petite casquette Gavroche, une espèce de chemise beige tout cernée parce que je compte dedans à l'été long. Et j'avais un sac de marin sur l'épaule dans lequel il y avait mes affaires, un petit sac de couchage, deux, trois cossins, une bouteille d'eau, un peu de linge pour mettre en dessous de mon linge. Et parce que ça, ce soute-là, c'est tout ce que j'allais avoir pour 20 jours. Et j'avais mon fanal aussi, une lampe à l'huile qu'on dit, en fait, c'est au gaz, mais une vieille lampe tempête. Je trouvais ça beau, moi, d'avancer comme ça. Tu sais, sur le coup, à partir de chez nous, c'est de même que je l'avais entrevu, puis c'est de même que j'ai décollé. Et dès mon premier matin en autostop, c'est toujours drôle partir dans un grand voyage, mais partir chez vous. J'ai traversé la rue, j'ai levé le pouce, puis j'étais encore en face de chez nous, mais j'étais plus chez nous, j'étais dans le début d'une aventure. Et puis j'étais là dans mes petites culottes de laine, avec ma petite casquette de compteur, dans slouch, avec mon fanal. Et je levais le pouce en prenant conscience de ce que j'avais fait. Je veux dire, c'était pas l'Halloween, là. Au Villa Pronovo qui fait du pouce. Je venais de mettre un obstacle entre moi et le monde. Définitivement, j'allais avancer moins vite pour me raconter un peu plus une histoire. Mais en tout cas, je reviendrai sur le soute un autre jour, là. Donc, c'est un peu le setup dans lequel je suis parti. Mon petit soute de compteur. Et ben, je suis arrivé à destination un premier soir. J'arrivais chez des gens. Et en ayant 100 km de distance à faire en autostop, ça se fait normalement en une heure de char, 100 km. En autostop, la game peut être un peu différente. Des fois, ça va te prendre le même temps, des fois le double, le triple. Ça va t'en prendre 10 fois plus si t'as un fanal avec toi, par exemple. Ou des fois, ça va trop bien, puis t'arrives trop tôt, puis tu te dis « j'ai pas envie d'aller tout de suite chez le monde, mon rendez-vous était fixé pour 16 heures chez cet inconnu-là, tu sais ». Alors, j'avançais tranquillement, et puis ben, j'allais attendre dans des parcs pendant 4 heures, avec mon fanal, en espérant que la police se pointe pas, tu sais, puis que j'aille pas à lui dire « Ah ben justement, ouais, cette première fois-là, pour me rendre à Matapédia, je m'étais fait arrêter par la police. » C'est vrai. Ben, tu vois, j'avais oublié ça. J'étais rendu à Pointe-à-la-Croix, puis il y a beaucoup de surveillance policière dans ce coin-là, et c'est le chemin pour aller vers le Nouveau-Brunswick. Et les carrefours sont souvent très arpentés par l'ordre. Alors, j'ai un policier qui me demande qu'est-ce que je fais. Je suis là, moi, à faire du stop avec mon fanal et puis j'explique que je suis un artiste en tournée. C'est une manifestation artistique. Moi, en fait, ce que je suis en train de faire... Mais tu sais, pas pantoute. Moi, je suis juste Pat qui est pogné avec son calice de soute sur le bord du chemin. Je suis pas un artiste, moi. Je suis... Mais oui, mais non. Et j'explique ça et puis ils me disent... OK, on te laisse, mais t'as d'affaires, elle peut être là dans une heure. Puis je suis comme, mais j'espère que je serai plus là dans une heure. Mais quoi, tu vas annuler ma tournée parce que je suis louche avec mon fanal? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, il y a toute la question d'autostop qui lui donnait une certaine légitimité pour intervenir sur moi. Ben, de toute manière, le pouvoir est assez grand là, de ce côté-là. Mais déjà, ma tournée était compromise par l'autorité et puis le gros bon sens. Fait que pour le reste de ce voyage-là, tout d'un coup, j'allais devoir me méfier de la police parce qu'ils pouvaient mettre fin à mon projet artistique. Tout d'un coup, ce soir, il y a un enfant qui se ferait pas raconter d'histoire parce qu'il y a un policier qui ne croyait pas aux fées, quoi. C'était un policier ou une policière. Mais ceci dit, ils m'ont laissé partir tant que dans une heure, je serais plus là. Alors, j'ai été pris pour marcher pour plus être là dans une heure, pour être certain. Et j'ai continué ma tournée et... Je suis arrivé à Matapédia une première... Ça fait déjà 16 minutes. Là, il est temps que j'arrive dans cette première maison-là. Je suis arrivé dans une première maison et bon, j'ai vu déjà que les gens avaient installé une scène. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais pas comme envisagé ça. Moi, je me disais, on va être dans le salon puis m'a compté. J'ai pas pensé à ce bout-là qui était comment tu vas faire ton show chez le monde. Tu sais, moi, je juste dit... Il y avait des syllabes là-dedans. Je les ai juste dit... Je veux dormir chez vous, je veux manger, puis profitez-en pour inviter du monde. Tu sais, c'est un spectacle d'une certaine qualité. Là, je veux dire, c'est un spectacle, point. Puis faites-en ce que vous voulez. Si vous êtes deux, fine. Si vous êtes 30, fine. Et puis, s'il vous plaît, chargez pas pour ça, puis amenez du monde, quoi. Fait que j'arrive chez une première personne et je découvre, en fait, que les gens, ben sans le savoir, étaient responsables de la scénographie, de la mise en scène, de la conception visuelle de la patente. Les gens ont à peu près toutes mis leurs chaises. Il y a quelque chose d'un peu naïf. Là, si tu demandes à un enfant de faire un spectacle, comment ils vont faire ça? Ils vont à peu près tout faire la même chose. Ils vont mettre des chaises, ils vont faire attendre le monde dans la cuisine, ils vont te donner des tickets sûrement. Tiens, ça, c'est vos billets de spectacle. Ils vont s'être habillés beaux, ils vont s'être mis du rouge à lèvres, des sparkles, des ailes de fée dans le dos. Ils vont peut-être avoir mis un rythme. Toutes ces affaires-là, eh bien, le monde l'ont fait. Parce que c'est ce qu'on a appris qu'était un spectacle, ça prend une scène. Alors, ils m'ont construit tous une scène. Alors, dans le salon, il y avait des chaises toutes en rangée. Il y avait des divans, il y avait des lampes qui avaient été placées. Là, on me disait, tiens, Patrick, je t'ai mis une lampe comme ça, si c'est correct pour toi, t'es-tu debout ou t'es-tu assis? Et puis, j'étais comme, hey, c'est vrai que c'est des questions quand même pointues auxquelles, ben, je veux dire, Jean-Paul, chez qui je vais compter à soir, il en fait pas de spectacle, puis il se pose pas cette question-là d'habitude, mais tout d'un coup, paf, ça y est tombé dessus parce qu'il a décidé de recevoir un quêteux avec son fanal chez eux, tu sais. Alors, c'était intéressant ben, de voir que j'impliquais le monde dans la mise en scène. Ça, c'était pas voulu. Mais tout d'un coup, moi, bon, je suis là, je jase. Il y a pas de loge derrière. Je jase avec le monde. Ça arrive doucement. Mon hôte ou mon hôtesse a décidé d'inviter ses voisins, ses cousins. Ah, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu la famille. On en a profité pour les inviter à soir. On a un événement spécial. Tu sais. Puis je découvrais tout d'un coup le potentiel de réunion, que le conte redevenait un prétexte pour se rassembler. Et ça me faisait donc bien vibrer de me dire, c'est même pas moi qu'on vient voir au fond. En fait, j'ai envie qu'on vienne se voir, qu'on vienne se revoir entre nous, puis qu'on reprenne le temps de poser le geste, de se rassembler dans des maisons, d'arrêter d'aller dans le lieu commun qui est une salle de spectacle ou un bar, de se désengager de ça. Un lieu neutre, c'est de perdre une occasion d'aller chez l'autre. Tout d'un coup, on aurait pu aller chez Jean-Paul puis profiter de l'hospitalité, de l'accueil, au lieu de profiter d'une commercialisation du sens de l'hospitalité, tu sais. Alors, ça se produisait comme ça. Et bon, j'ai commencé mon premier spectacle, entre guillemets, dans une de ces maisons-là. Et je réalisais qu'il allait falloir que je m'ajuste complètement parce que j'avais seulement appris à compter, moi, sur la plage. Devant, je sais pas, moi, là, on est en 2014, il y avait peut-être 50 personnes par soir qui venaient voir mes spectacles. Il fallait que je gueule à moitié, il fallait que je sois debout devant le monde, il fallait que je gère un feu, il fallait que je gère les touristes qui passent, quoi. Mais là, tout d'un coup, on est dans un salon, le monde sont à 2 pieds de moi. Si je suis debout puis que je gesticule mon histoire puis que je parle fort, ben, je suis en train de le gueuler dans les oreilles puis avec mes grands gestes, c'est complètement inadéquat. Tout d'un coup, il fallait que je revoie au complet ma manière de présenter un conte. Et bon, j'ai la chance de pas avoir travaillé une mise en scène dans un studio avec un texte qui est fixé, puis souviens-toi qu'à ce moment-là, tu dois regarder le public, tendre la main et faire ce geste précis, te bercer. Non, moi, dis ton histoire, puis c'est tout, tu sais. Mais tout d'un coup, je réalisais qu'il allait falloir que je revisite complètement le volume avec lequel je disais mon histoire. Tout d'un coup, ben, je suis collé sur Jean-Paul. Tout d'un coup, c'est tout du monde qui se connaissent entre eux. Alors, il y a une complicité dans l'assistance qui est complètement différente. Il y avait aussi mon répertoire qui allait devoir changer parce que de faire une histoire qui dure 1h30 dans un salon, il y a de quoi... Je sais pas si c'est à ça que le monde s'attend. Tu sais, il y a de quoi d'un peu inadéquat. Avec le temps, des années plus tard, j'ai réalisé que c'était bien plus efficace de raconter plein de petites histoires, qu'on prenne un break, on va remanger des egg rolls et puis on revient, voulez-vous vous déboucher une bière, voulez-vous qu'on jase entre chacune des histoires, vous vous connaissez toutes, on prend-tu le temps de jaser entre chaque histoire, tu sais, moi je suis là pour, faites ce que vous voulez avec ça, je suis disponible, sachez qu'il y a un tas d'histoires qui est disponible, pesez supplé sur le jukebox quand vous voulez, tu sais. Alors je découvrais un peu toute cette dynamique-là qui m'éloignait de la forme un peu plus spectaculaire. Donc, j'ai complété cette première tournée-là, 2014. Après ça, en 2015, j'en ai refait une. T'as qu'à passer par là. En 2014, je vous ai dit que j'avais pas d'argent avec moi. Puis à un moment donné, j'étais à Saint-Lin-Laurentide. Ça m'a marqué parce que c'est de là que vient Wilfrid Laurier. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Mais c'est pour ça que ça m'a marqué. J'avais pas d'argent sur moi, on se rappelle. Et puis, ça marchait pas pantoute en stop. J'étais dans une espèce de grosse bretelle d'autoroute pour monter sur un viaduc. Puis, j'avais mon petit pouce puis mon calice de fanal encore à côté de Montréal. Et puis, j'avais peur de la police. Et puis, je m'en allais à Sainte-Thérèse, je pense que ça s'appelle. J'étais encore trop loin puis j'allais pas y arriver. On était en fin d'après-midi puis je me disais, merde, il y a du monde qui m'attend. Il y a une famille qui est là qui veut un spectacle de conte ce soir. Puis de toute manière, faut que je me rende, sinon où c'est que je dors? Je vais pas aller dormir en dessous de mon viaduc, là, tu sais. Je suis pas tellement loin, il y a des transports en commun, mais moi, le petit poète, je m'ai pas traîné d'argent. Parce que c'est beau d'avoir besoin de l'autre, mais là, semblerait-il que quand je lève le pouce, l'autre, il m'embarque pas, tu sais, puis il n'a rien à coïncider de moi. Désolé s'il y avait des enfants dans le char quand vous écoutez ce balado-là. Ben, coudonc, marche, mais ça allait pas le faire. J'étais comme à 4 heures de marche ou 15 minutes de voiture, tu sais, mais les voitures disaient non. Et en marchant, paf, qu'est-ce que je vois dans le fossé à côté de moi? Un 5 piastres qui tient en deux brins de foin. No way, un 5 piastres qui traîne là. Quoi, c'est ça? Je pogne le 5 piastres, puis c'est la face de Wilfrid Laurier qui est là-dessus. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai fait une recherche Google plus tard et j'ai découvert qu'en fait, Wilfrid Laurier vient de Saint-Lin-Laurentide. J'étais dans le village de Tiwil, puis Tiwil me venait en aide. C'est pas, je suis probablement la seule personne que Wilfrid Laurier a aidé, parce que si je me fie à nos fondateurs, c'est rarement beau ce qui s'est fait. Mais Tiwil, tout d'un coup, dit « Tiens, mon chum, tu vas prendre l'autobus. » Et puis je me disais « No way, j'ai un petit tapis volant qui fait à peu près 2 pouces par 4 pouces. Je vais pouvoir prendre l'autobus. » Alors là, Google Maps l'affaire. Je vois où il y a un petit terminus d'autobus. Je m'en vais là, il y a le transport en commun. J'achète un billet, ça me donne une poignée de change. Je me dis « Qu'est-ce que je vais faire avec cette poignée de change-là? » Je sors du kiosque. Puis il y a un mendiant qui me dit « Hey man, t'aurais dû du change. » Puis je suis comme « Hell yeah que j'ai du change. T'as la balance de Wilfrid Laurier, toi. Moi, j'ai mon billet, toi, t'as ton change. C'est trop nice. » Alors, j'ai pris je me suis rendu. Bref, les tournées de quêteux. 2015, je m'en suis fait une deuxième. Et celle-là, ouais, c'est un peu abrupt. J'aurais pu, si je faisais vraiment du montage, j'aurais pu vous rendre ça un peu plus sweet. Mais 2015, j'ai refait une deuxième tournée. Et celle-là, je la faisais juste autour de la Gaspésie. Parce que je m'étais dit que j'allais en faire une à chaque année, à partir de ma première année, tu sais, et j'ai été sur la plus facile, je manquais de temps. 11 soirs, je fais le tour de la Gaspésie, ça va me faire découvrir mon territoire, ça va me faire créer des liens avec du monde, avec mes voisins, quoi. Puis ça va me faire découvrir un territoire qui est pas si unique que ça. Ceux qui vivent en Gaspésie, vous le savez, il y a peut-être bien 4 Gaspésies, 5 Gaspésies différentes, puis... T'sais, bon, on n'est pas à Montréal où chaque quartier est très différent, mais c'est pas loin de ça. C'est toutes des réalités économiques qui sont très différentes. T'as le côté nord qui a un type de population, je veux dire, le revenu médian là-bas a rien à voir avec le revenu médian de la ville de Maria dans la baie des Chaleurs.
T'as deux communautés Mi'kmaq qui sont sur le territoire aussi, à Gaspeg puis Gaspépégag.
Et c'est toutes des réalités tellement différentes. Il y a des bouts qui sont plus reliés à la pêche, d'autres moins, d'autres plus au tourisme, d'autres qui sont juste connectés directement sur la misère, c'est leur ressource première. Et puis, alors, ça me permettait de découvrir ça. Et en faisant cette tournée-là, j'ai réussi à avoir... La Fabrique culturelle, qui est un petit bijou qu'on a au Québec, c'est Télé-Québec qui fait ça, et c'est des capsules qu'on va tourner sur des artistes locaux. C'est une espèce de budget national, mais il y a une équipe de production ici qui se gratte la tête puis qui se dit, ben ok, ce mois-ci, qui est-ce qu'on filme? Parce qu'on a vite fait le tour, tu sais. Et c'est du contenu de qualité, je veux dire, ils ont une vraie équipe professionnelle, ils sont là, ils vont mettre du montage, ils vont rendre ça sweet, ton affaire, et puis paf, ça tombe sur moi. Patrick, on pourrait te filmer pendant une de tes tournées. Ah ouais, trop cool. Seule contrainte, s'il vous plaît, je suis désolé, mais faut pas me filmer quand je raconte. Puis ils sont comme, ouais, mais quand même un peu. Non, quand même pas un peu, mais peut-être sans le son. Ah ok, on te filmera à travers le châssis, on t'entendra. Ok, on peut faire ça de même. On peut-tu te filmer en stop? Ben non, parce que c'est déjà assez dur de se faire prendre de même avec mon fanal si en plus j'ai une équipe de tournage. Ben on essaie-tu quand même? Ça a donné un tournage, c'était génial. On m'a mis un micro, j'ai fait du stop. J'avais le caméraman qui était caché dans l'accotement pour pas nuire à ma démarche d'essayer de me faire faire un lift. Paf, je me fais embarquer. Salut, vous allez où? Là, ok, on roule. Et puis après une minute, je dis « Pouvez-vous me descendre? En fait, j'ai une équipe de tournage avec moi. » Puis, tu vois, ça, c'était un micro. Puis, quoi? Ben, oui, désolé. Merci pour le lift. Fuck, il allait où je m'en allais, mais non, on était là pour juste tourner, tu sais. Alors, je me suis trouvé à tourner chez du monde, puis dans des chars. Et ça m'a donné une visibilité. La capsule de la Fabrique culturelle, qui était toute belle, ils ont vraiment pris un... Je pense que c'est un genre de 5-6 minutes pour filmer la démarche au complet. Et tout d'un coup, ça a fait exploser la visibilité de ma démarche de conteur. Ça a devenu une super carte de visite. Parce que, pourquoi ça a circulé cette affaire-là? Eh bien, je pense que c'est quand même une démarche qui touche le monde. Parce que tout d'un coup, c'est une manifestation artistique qui pourrait taper chez vous. C'est sûr, ça rejoint tout le monde. Ta maison devient un chapiteau et puis on peut transformer nos salons, nos sous-sols en théâtre comme on le faisait quand on était des enfants. Et je pense que ça fait vibrer quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose. Et ça, ben moi, dans ma carrière, veux pas, cette tournée-là, aussi désintéressée qu'elle était, c'est bénévole. Ça me donnait un spaghetti ou une tranche de pain en montant. Là. C'était pas... C'était gratis l'affaire, puis je suis pas bon pour avoir des subventions pour ce que je fais. Ça m'a donné une visibilité telle qui fait que l'été d'après mon spectacle, eh ben c'est ça le comble, parce que on t'a vu ou t'es venu compter chez nous l'hiver passé. Alors ça me donnait des espèces de petits ambassadeurs à gauche et à droite, puis ça a fait apparaître quelque chose qui est une espèce de communauté autour de ma pratique. Tout d'un coup, j'ai une espèce de famille un peu partout au Québec que je connais à cause du conte. Et c'est pas des conteurs-conteuses, non, c'est Jacinthe et puis Paul qui vivent dans le Richelieu. Eux, ils m'ont hébergé, je les aime bien, je les ai jamais revus de ma vie. Mais tu peux être certain que pendant plusieurs années, quand ils ont de la famille qui lui dit « je m'en vais en Gaspésie », ben ils vont dire « va voir le petit compteur au fort, il compte peut-être bien encore, je sais pas trop, on l'avait reçu une fois ». Tu sais, cette visibilité-là, c'est venu comme un peu consolider. Veux pas mon métier de conteur. Alors, le truc le plus désintéressé, finalement, a été pas le plus payant, mais le plus productif pour mon stock, pour ma démarche. Et entre autres, ces tournées de quêteux-là, eh ben ça a attiré de l'attention médiatique, entre autres sur une émission nationale, où est-ce qu'on m'a fait venir dans une espèce de talk show à Télé-Québec. Je sais pas si je peux nommer à patente. Je sais jamais, j'ai pas de... Comment on appelle ça? Un groupe d'avocats? Un groupe d'avocats. J'ai pas d'avocats avec moi. C'est pas un conciliable. On va prendre le temps de chercher. C'est pas un consortium, c'est un contentieux. Me semble, c'est ça. On vient juste de perdre du temps. Faut le prendre, le temps. Si on prend pas le temps de le perdre, on n'a pas vraiment notre temps. Alors, c'est ça, je sais pas trop si je peux y nommer, mais toujours est-il que je suis dans un talk show, on est 5-6 invités, ils m'ont mis du maquillage avant, il y a tout ça, là. Il y a du monde connu qui sont là, on m'a mis du fond de teint dans le fond de la tête, c'est là que tu comprends que tu perds tes cheveux, tu sais, j'ai du eyeliner, ils ont boutonné ma chemise jusqu'en haut, j'ai genre des belles culottes, il y a tout ça. Et on en vient à moi. Tout le monde est à l'aise autour de la table. Tout le monde est habitué de ça, sauf moi. Je fais ticoune sur un moyen temps. Et puis, bon, on en vient à mon tour. L'animateur est là. Il présente... Il me fait une présentation, mais de luxe. Il me déploie le tapis rouge et il dit « Alors, mon prochain invité, c'est un des dossiers de recherche les plus intéressants qui m'a été mis entre les mains jusqu'ici. » Et il dit... Alors, il s'appelle Patrick Dubois. Patrick, tu racontes des histoires en échange simplement du gîte et du couvert. Tu te promènes à travers le Québec comme ça depuis 2012, en vivant de la confiance qu'on te fait. Est-ce que c'est juste, Patrick? Puis je suis comme, hell no! Non! Oui, mais non! Je suis désolé, mais je peux pas dire oui à ça. Mais je comprends, merde, que c'est pour ça que vous m'avez fait venir... Mais je peux pas vous dire que je fais ça à l'année. Je peux pas vous dire que c'est de même que je vis. C'est pas ça qui... Non, je fais ça une couple de jours dans mon année. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas ça. Mais je suis d'accord avec toi que ça fait une super histoire à raconter, tu sais. Alors, mon intro a pas été présentée dans l'émission. On arrive juste à... Alors, je vous présente Patrick Dubois, tu sais. Et je me suis moi-même fait une jambette. En tout cas, je trouvais important d'être honnête là-dedans. Mais clairement, ça attire l'attention et ça fait en sorte qu'on se raconte beaucoup des... Tu sais, qu'on se raconte des histoires et ça nourrit l'imaginaire, clairement, d'avoir cette démarche-là. Et tu sais, moi, à travers tout ça, je me trouve à aller chez... Il y a une espèce de day-to-day là-dedans. Le jour à jour, on est loin d'une démarche artistique où est-ce que je fais un spectacle et puis que je réfléchis à mon œuvre. Tu sais, le plus gros de mon temps, je le passe à faire de l'intervention communautaire. Tu sais, je suis dans des chars avec des inconnus, je suis chez des inconnus, il y a des longs silences, on sait pas où ça s'en va tout ça. Et je me trouve à avoir comme seul outil un 7 ans de barman en arrière de la cravate. Où est-ce que avant de vivre en Gaspésie, j'ai été barman entre autres. Et j'avais les plus beaux chiffres. J'avais des chiffres de fin de semaine, de soir, où est-ce que tu fais de l'argent, entre autres, puis que tu te dis, bon, OK, c'est un métier. Mais j'avais aussi les lundis après-midi, Ou est-ce que, eh ben, il faut tenir le fort, et puis, tiens, c'est à ton tour. Et ces journées-là, je me suis mis, ben, tu tournes en rond, tu te fais chier, il y a du monde que t'as pas envie de jaser, mais s'assoit au comptoir, puis avec le grosse bière, ben, ils se payent une conversation, hein, ouais, compte-moi ça, tu sais. Et au fil des années, quand même, pendant 7 ans, j'ai découvert une espèce de jeu qui me plaisait bien ces après-midi-là, qui était « C'est quoi son histoire? » Et je savais pas que j'allais devenir conteur d'envie, et c'était pas son histoire, son conte, mais c'est quoi cette personne-là en face de moi, aussi peu attrayante elle peut être des fois, eh ben, elle détient un bout d'histoire qui t'intéresse. Elle détient peut-être un savoir qui t'intéresse, mais c'est ta job de le trouver. Conte-moi ton affaire, tu sais. Et c'est là que je découvrais que, paf, un tel était, je sais pas, moi, il fait juste, ben, juste, il y a personne qui fait juste quoi que ce soit, là. Tiens, un tel, lui, il est sur la brosse à tous les fins de semaine, il dépense sa paye au complet de la semaine pour chaque fin de semaine, mais ben la semaine, il est peintre, il peinture des appartements, il roule du blanc partout. Mais si tu y poses la question, eh ben il se met à te raconter comment il faut sabler entre chacune de ses couches si tu veux vraiment avoir un fini de luxe dans les appartes de marde que tu repeintures, tu sais. Et ça me servira peut-être bien jamais, mais tout d'un coup, ce gars-là, c'est un génie. Avec les moyens du bord, il t'explique comment avoir le meilleur résultat fini quand tu peintures chez tes chums qui t'ont encore demandé parce qu'ils venaient de déménager, tu sais. Et il y a quelque chose d'enrichissant chez chacune des personnes que tu rencontres. Ça, j'ai découvert ça dans mon métier de barman, tu sais, et j'ai rapporté ça dans mon métier de quêteux, en autostop. C'est quoi l'histoire de cette personne-là? Qu'est-ce qu'il y a à me raconter? Souvent, je me rends compte, surtout en tournant en Gaspésie, que le jeu en stop, c'est surtout de chercher c'est quoi notre lien. Naturellement, on se mettait à chercher, ah ouais, t'es de Carleton, connais-tu un tel, puis ben, on finissait par trouver c'était quoi notre lien, parce qu'on dirait que l'humain tolère pas d'être des inconnus trop longtemps, puis on cherche à se rattacher au plus sacrant, à l'autre, puis à voir qu'est-ce qu'on a en commun, tu sais. Et puis, on dirait finalement deux chiens qui se sentent le cul en se rencontrant, mais c'est en nous, et ça fait du bien, puis tout d'un coup, c'est plus un inconnu, c'est quelqu'un qu'on a pris le temps de connaître, et ça y va de même. Donc, j'avais ma méthode pour mes deux premières tournées, qui était, ben, même mes trois premières tournées, qui était, bon, de passer par Internet, de prévoir un peu plus le truc. Ça m'a fait connaître des gens. En 2019, j'ai remis ça. Et là, je me suis tapé une tournée qui était beaucoup plus grande. Je suis parti de Carleton, puis je me suis rendu jusqu'en Abitibi. Et par ce voyage-là, je découvrais, ça durait, je pense, c'était 30 jours que je faisais. Et là, j'avais plus d'expérience. J'avais une couple d'années de repos entre ma tournée d'avant. Et elle, ben, j'avais décidé de la faire d'une manière un peu plus reposante, justement, parce que j'avais trouvé ça brûlant, des 20 jours non-stop à être chez du monde puis à pas avoir de break jamais. Donc, aux 4 jours, je m'étais mis une petite pause où est-ce que, en chemin, j'allais chez des amis, j'allais pas compter à personne, j'allais pas rien dire, j'allais être dans ma bulle puis, je sais pas, moi, scroller sur Facebook, aller voir un film, lire un livre, faire mon lavage, des choses comme ça. Entre autres, dans cette tournée-là, j'ai arrêté de mettre mon costume pour faire cette tournée-là, ce qui a rendu le truc vraiment plus accessible. Et j'ai découvert, entre autres, tout plein de petits raccoins du Québec, et je me rendais compte que ça faisait apparaître pour moi des histoires. À chaque sortie sur A20, tout d'un coup, j'ai une histoire à me raconter. Quand je traverse le Québec maintenant, je suis un peu chez nous partout. Pas seulement qu'il y a Jean-Paul puis Jean-Marc qui sont prêts à m'héberger si jamais je suis mal pris, parce que je les ai rencontrés dans tournées précédentes. Non, il n'y a pas juste ça. Il y a aussi que j'ai découvert qu'à Amos, il y a telle petite affaire qui est vraiment géniale. Je me souviens que j'ai fait une soirée de conte à tel endroit. Ah oui, ce parc-là, j'ai passé un après-midi en dessous d'un pont couvert à Amqui. J'ai de l'histoire pour moi, personnelle. J'ai du vécu un peu partout au Québec. Et puis tout d'un coup, j'habite un peu plus le Québec. Parce que habiter, c'est aussi avoir les souvenirs d'un lieu. Et tout d'un coup, ben, ça m'a fait coloniser mon Québec. Et ça, pour moi, c'est précieux. Ça a venu nourrir mon sentiment d'appartenance à ce territoire-là. Maintenant, ben, à mon spectacle l'été, je demande tout le temps au monde avant le spectacle, je dis « Vous venez d'où? » Puis on fait un grand tour de salle pour savoir vous venez d'où. Puis ben, tout d'un coup, une fois sur 20, j'ai une histoire. On me dit « Je viens de Germaine-de-Boulay. » Puis je fais « Ah, Sainte-Germaine-de-Boulay, t'es-tu sérieux? » Puis il fait comme « Quoi, tu connais ça? » Ben oui, je connais ça. Sainte-Germaine-de-Boulay, ça, j'avais capoté. C'est en Abitibi, c'est entre, je sais plus, Lasard puis Rouyn. C'est un petit village qui paie pas de mine, je sais pas. Ils ont qui paie pas de mine, c'est drôle, un village qui paie pas de mine en Abitibi, je sais pas si ça existe. c'est un petit village tout tranquille où est-ce qu'il y a un gars qui s'est mis à travailler, je sais pas si c'était à MRC ou à la municipalité, qui a eu envie d'un projet culturel. Il a trouvé une subvention qui traînait ou je sais pas quoi. Il a dit, on fait un film. Il a composé un conte. Je sais pas, il s'appelait-tu Marco, ce gars-là? Je sais plus. Il a composé un conte qui parle de... Faut que je vous décrive le contenu pour que vous compreniez à patente. Là, qui parle de camp de bûcherons, puis il y aurait un foreman qui, au lieu de chicaner ses gars quand il y avait une mauvaise journée, ben au contraire, il valorisait ceux qui avaient bien travaillé. Puis à la fin de chaque journée, il prenait celui qui avait le mieux travaillé aujourd'hui, puis il allait dire devant tout le monde pourquoi il avait le mieux travaillé, puis il allait y faire se péter les bretelles sur une table devant tout le monde. Tu sais, la carotte plutôt que le bâton. Et les bretelles sont devenues un élément important dans cette histoire-là. Et ils ont fait un film avec ça. Ça s'appelle genre Les bretelles à Placide, me semble. C'est un petit film. Ils ont imprimé, je sais pas moi, 50 DVD, puis ils se les ont passés à la gang, là. Et ça a créé un événement. Me semble c'est à l'Halloween ou à Noël. Le village au complet a un concours de décoration de maison. Et celui ou celle qui a le mieux décoré sa maison a gagné le prix. Et le prix, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on s'en va tous sur le perron de l'église et il va pouvoir monter celui qui a gagné. Si c'est Marianne en face de moi qui a gagné, ben Marianne, tu vas pouvoir monter sur le perron de l'église, tu vas enfiler les bretelles de culottes à Placide, celles du film, les culottes, les bretelles officielles, et puis pendant une minute devant tout le monde, tu vas te péter les bretelles. Tu tournes en rond, tu te snaps les bretelles sur le chest et tout le monde t'applaudit, tout le monde t'encourage. Yeah, Marianne! Et puis t'es là, tournant en rond sur le perron de l'église puis à te péter les bretelles. Mais c'est incroyable comme histoire. Ils se sont comme créés du patrimoine à partir de fuck all, je veux dire, une paire de bretelles. Quand j'ai été à Saint-Germain-de-Boulay, ben on m'a raconté ça. En fait, j'étais chez le gars qui a fait le projet. Et quand je suis reparti en stop... Je me suis mis dans un bon spot de stop juste avant la dernière grande ligne droite qui permettait de sortir du village. Il y avait une shop de soudure qui était là. Et je vous niaise pas, devant la shop de soudure, il y a une sculpture en tôle. C'est une grosse paire de culottes bleues. Mais genre, le diamètre, ben une paire de culottes comme s'il y avait quelqu'un dedans. Là, très sphérique l'affaire. Ça faisait peut-être bien genre 2 mètres de diamètre par 2 mètres de haut. Avec une grosse paire de bretelles en métal qui tiennent dans le vide au-dessus de ça. Non, mais un touriste voit ça, il comprend pas. En quoi vous êtes vraiment fait un emblème avec une paire de bretelles, mais c'est de toute beauté, tu sais. Fait que moi, tout d'un coup, j'apprends ce genre d'affaires-là. Et c'est pas pour l'inclure dans un conte, mais c'est juste pour mieux habiter mon Québec, tu sais. Et c'est ça que j'ai gagné à travers ces tournées-là. Ça ressemble à ça, moi, pour moi, ces tournées de quête-là. Dans le prochain épisode, je vais vous parler plus en détail de comment ces tournées-là québécoises ont dérivé sur une tournée où j'ai eu envie d'aller vraiment frapper aux portes et d'aller conter des histoires chez des gens qui m'attendaient pas, mais avec un conteur qui débarque à soir puis que t'es pris pour dealer avec ça dans spontané. Alors voilà, à suivre. Tiens, ça serait la forme de cette fin d'épisode-là. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam-Gagnon. Et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.